Très heureux d'être avec vous ce matin pour célébrer cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes des habitués, vous savez qu'on étudie l'évangile de Matthieu depuis déjà quelques mois. Et c'est la dernière, cette fois-ci, avant une pause, et après on va reprendre. Donc on est arrivé seulement au chapitre 16, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, chapitre 16, et on va lire les versets 13 à 23. Dans ces versets, on va lire la première mention de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par sa bouche lui-même, l'annonce de sa résurrection. Je lis chapitre 16, versets 13 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celle des hommes. » Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité, elle est un fondement solide, Seigneur, pour nos vies. On prie pour que tu nous éclaires encore sur ta personne, sur ton œuvre, et puis sur la mission que tu nous as confiée. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. On arrive donc au tournant un peu de l'évangile de Matthieu, mais dans tous les évangiles synoptiques, on trouve un peu cette même construction. Depuis maintenant à peu près 2 ans et demi, Jésus progresse vers cet instant. Jusqu'à présent, Matthieu, l'auteur de l'évangile, nous a rapporté la naissance miraculeuse du roi et les principes de son royaume. Il nous a dit qu'il enseignait, non pas comme les scribes, mais avec une autorité naturelle. Il déjouait également les plans et les ruses de ses ennemis avec une sagesse déconcertante. Et puis il proposait des paraboles qui marquaient le cœur des foules. Il a également, Matthieu, rapporté l'autorité et la puissance du roi, une puissance qui s'étendait sur tout domaine, sur les démons, mais aussi sur les éléments de la terre. Il calmait les eaux, il parlait au vent et le vent se taisait. Et puis, il a montré son autorité sur la maladie, sur l'infirmité, sur la mort elle-même. À présent, il pose la question à laquelle tout être humain doit répondre. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis ? La réponse à cette question est cruciale. Notre destinée éternelle en dépend. les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, voient en Jésus une menace pour leur système religieux et ils sont déterminés à le faire mourir. Les réponses des hommes sont plutôt élogieuses. Il nous est dit que certains pensent que c'est Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Aujourd'hui encore, les réponses des hommes sont plutôt sympathiques, parfois admiratives, très souvent respectueuses. C'est un enseignant plein de sagesse. C'est un modèle d'amour et de compassion, mais sans jamais reconnaître sa divinité et sa seigneurie. Mais si vous avez suivi attentivement l'étude de l'évangile de Matthieu, vous ne pouvez pas arriver à cette conclusion. C'est à présent à ses disciples de répondre. Un seul de ces miracles aurait suffi définitivement pour établir qu'il est véritablement Jésus le Messie. Mais il a multiplié ses miracles sans cesse afin d'établir fermement son identité dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Comme d'habitude, c'est Pierre qui se fait porte-parole des autres. Au verset 16, il dit « Tu es le Christ ». C'est-à-dire tu es le Messie. Tu es celui qui est annoncé, celui qui devait venir. Tu es celui qui doit libérer son peuple. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais voyez-vous, l'image que les Juifs ont du Messie est celle d'un puissant qui viendrait conquérir et régner et puis aussi délivrer son peuple de ses ennemis et établir un royaume de justice sur la terre, et cela pour toujours. Mais Jésus refuse d'utiliser sa puissance miraculeuse pour s'opposer à l'oppresseur romain. Alors le doute commence à s'immiscer dans la pensée de ses disciples. Est-ce qu'il est véritablement le Messie ? Même Jean-Baptiste est troublé par cela. Il dit, est-ce que tu es bien celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Aussi, quand Pierre répond avec conviction, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus ajoute, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus va utiliser, après cela, trois images. Volontairement, il va utiliser des choses qui vont frapper nos esprits. Il joue avec les mots pour enseigner de manière vivante et profonde que la foi en lui, c'est le fondement, comme on vient de le chanter, c'est le fondement, la fondation pour son Église. Et puis sa résurrection brise toutes les barrières. Et puis il ouvre l'accès au royaume à tous ceux qui croient. Et ça a vraiment fonctionné, ces images, les pierres, les portes, les clés, à tel point que, encore aujourd'hui, ça discute sur qu'est-ce que c'est que ces pierres, qu'est-ce que c'est que ces portes, qu'est-ce que c'est que ces clés. Et je vous propose de regarder cela ensemble assez rapidement. Tout d'abord, les pierres. Au verset 18, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre », ça c'est la première pierre, « et que sur cette pierre, est-ce Pierre ou une autre pierre, je bâtirai mon Église ». Jésus fait ici un jeu de mots qui a fait couler tellement d'encre. Et en fait, le jeu de mots, c'est que le nom de Pierre, Petros, c'est le même mot pour une pierre, Petra. Et donc, il va utiliser ce jeu de mots pour parler de la fondation, ce qui est indispensable à saisir pour nous. C'est le point crucial ici pour ce passage, et c'est là où va basculer l'évangile. Certains pensent que ce rocher est Jésus lui-même. Comme Pierre l'atteste plus tard dans sa première épître, au chapitre 2, versets 5 à 8, il dit « c'est Jésus la fondation ». D'autres estiment qu'il s'agit de Pierre lui-même, comme représentant des apôtres, et d'une certaine manière, c'est assez juste, parce qu'il est l'un des fondements de l'Église. En Éphésiens, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Pierre ne se présente jamais comme le fondement unique. C'est Jésus, la pierre, il le reconnaît tout le temps, mais il est un de ces fondements sur lesquels l'Église va pouvoir se construire. Il s'inscrit parmi les autres croyants construits sur Jésus-Christ. Si l'Église catholique romaine n'avait pas abusé de ce passage pour faire de Pierre le premier pape et établir son infaillibilité, les protestants seraient beaucoup plus enclins à accepter ce point de vue. D'ailleurs, l'infaillibilité de Pierre commencerait assez mal avec les paroles de Jésus à son adresse qu'on vient de lire au verset 23. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tes pensées ne sont que des pensées humaines, ce ne sont pas les pensées de Dieu. » Ça disqualifie quand même le... Pour d'autres encore, ce rocher, c'est Pierre, mais dans cette confession qu'il fait, en tant que confesseur que Jésus est Dieu et le Messie. Le contexte immédiat de ce passage est la confession de Pierre. Tout porte autour de ça. Jésus les invite à prendre position. Qui dites-vous que je suis? Et puis, il dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé ces choses, mais le Père Céleste lui-même qui a révélé ces choses à l'apôtre Pierre. Et puis au verset 20 encore, cette confession que Jésus veut que ses disciples gardent secrète. Il dit, n'en parlez à personne. C'est encore cette confession. Et donc le roc correspondrait naturellement à cette vérité révélée à Pierre. Jésus est le Messie. Et au fond, tout l'Évangile, jusqu'au chapitre 16, nous amène à être convaincus de cela. Et si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant, au chapitre 16, recommencez au début. Recommencez au début. Il faut que vous soyez intimement convaincu de cela. Pourquoi? Parce que toute la suite va dépendre de cela. Il va monter à Jérusalem. Il va être rejeté. Il va être condamné à mort, fouetté, et puis crucifié, et il va mourir. Mais 3 jours plus tard, il ressuscitera. Si vous n'avez pas saisi que c'est le Messie, que c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est capable de porter vos fautes, alors vous passez à côté de l'Évangile. Et c'est pour ça que Jésus parle de cette pierre, de cette fondation. Cette confession est une fondation pour l'Église. Toute l'Église est bâtie de là-dessus, sur cette proclamation. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, on va avoir des baptêmes. Et le baptême, c'est le témoignage que l'on a cru en Jésus comme sauveur. Et puis, c'est notre incorporation à l'Église, en fait, l'Église locale. Et la question qu'on va poser, c'est « Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ? Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés ? Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts ?» Et le baptême, c'est l'illustration de toute cette vérité de l'Évangile. Les premiers chrétiens étaient persécutés et ils se reconnaissaient en tissant dans leurs vêtements ou en dessinant dans leur maison un poisson. Un ictus en grec. Pourquoi ils ont choisi ce... Et encore aujourd'hui, on colle derrière nos voitures des poissons. Ça signifie ictus, c'est un acrostiche qui signifie Jésus, Christos, Theo, Ouius, Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et ça, c'est le socle de notre foi. C'est là-dessus que repose le christianisme. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Le christianisme débute dans votre vie par une réponse personnelle à cette question. Et Jésus ajoute au verset 17 que Pierre est heureux ou béni. Et c'est aussi ce que vous êtes si vous faites la même confession. Reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ne vient pas d'une compréhension humaine. Vous avez remarqué, il dit « Tu es heureux, fils de Jonas ». Il le ramène à ce qu'il est véritablement. C'est un homme, un descendant de Jonas. Mais il lui dit « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses ». Pour percevoir cette beauté, cette gloire, l'excellence de Dieu de manière vivante et personnelle, nous avons besoin de véritablement être éclairés, de comprendre qui est Jésus. Jusqu'ici, les Pierre et les disciples comprennent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il sauve, mais ce qu'ils ne comprennent pas véritablement, c'est de quelle manière il va sauver. Et nous aussi, on a besoin de mieux comprendre qui est Christ, comment il sauve. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé par Dieu. C'est-à-dire, il y a des vérités que l'on a lues, qui sont là dans notre compréhension, dans notre tête. Mais si ces vérités ne descendent pas dans notre cœur, ne sont pas éclairées par l'Esprit de Dieu pour que on puisse véritablement comprendre à quel point c'est important, alors on passe à côté de ce plan extraordinaire. La foi authentique implique plus qu'un accord intellectuel. Elle dépend de cette action surnaturelle de Dieu, sans laquelle l'être humain reste aveugle à la vraie gloire divine. Tous ceux qui sont déjà venus chez nous savent que pour passer dans notre séjour, il y a une toute petite marche. Et vous avez peut-être appris ça à vos dépens. On est tout le temps en train de dire « Attention, il y a une marche, attention, il y a une marche. Pour éviter de ramasser les gens par terre. Depuis peu, on a mis une lumière LED sur toute la marche, là. Ça éclaire, mais... Depuis, on a toujours l'impression qu'il y a un ange dans la cuisine. Mais la marche est toujours là, depuis toujours. Et vous avez pu constater cette marche. Mais la lumière nous éclaire pour éviter de trébucher sur cette marche. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'illumination divine. Il n'amène pas quelque chose de nouveau. Il éclaire ce qui est déjà là. Les miracles de Jésus. Il éclaire sa personne, ses paroles. Et à ce moment-là, elles deviennent réelles, elles deviennent nôtres. On s'en saisit. Et il n'y a pas une chose plus importante pour nous que Jésus-Christ soit le Messie, celui qui est mort pour nous. L'apôtre Pierre, il ne dit pas « on dit que », mais il dit « je sais que tu es le Messie ». Est-ce que vous pouvez dire cette même chose? Est-ce que vous pouvez dire « Je sais qu'il est le Messie. Je sais. » Ça, c'est le roc sur lequel vous pouvez fonder votre vie. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, il prie sans cesse que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà le roc sur lequel Jésus bâtit son Église. Et voilà une prière que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Seigneur, révèle-toi, révèle ces vérités à nos cœurs, ouvre nos yeux pour une compréhension plus complète, plus profonde de qui tu es. Nous avons besoin de saisir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et ça, c'est un préalable avant de comprendre comment il nous sauve. Et ça, c'est notre deuxième point, les pierres, les portes. Verset 18. On donne souvent aux portes du séjour des morts le sens des forces sataniques qui s'attaquent à l'Église de Jésus-Christ. Et du coup, une interprétation que l'on fait couramment est que l'Église résistera aux assauts de l'ennemi. Mais les portes, ce ne sont pas des armes de guerre offensive. Elles ne visent pas à conquérir, mais plutôt à défendre, à protéger, à garder ceux qui sont derrière elles. Et ici, ce sont les portes du séjour des morts, le Hadès en grec, le Sheol en hébreu. Ce n'est pas l'enfer, mais c'est le séjour où les morts se retrouvent. Jésus, il choisit une image ici surprenante. Il ne dit pas « Mon Église survivra aux attaques ». Il dit « Les portes de la mort ne tiendront pas contre mon Église ». Ce n'est donc pas l'Église qui est assiégée, mais c'est la mort. L'Église n'est pas une communauté qui essaie de tenir bon dans un monde qui lui est hostile. C'est une force qui avance contre ce qui semblait invincible, à savoir la mort. Comment est-ce possible? Pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles? Mais parce que Jésus lui-même est entré dans le tombeau. Il est entré dans le séjour des morts. Il a été enfermé, littéralement la pierre a été roulée devant le tombeau. Et pendant un moment, tout semblait perdu. Pendant un moment, les disciples ont pensé, c'est fini. Tout s'est écroulé. Nos espoirs sont déçus. Les portes du séjour des morts se sont refermées sur lui. Et ça, c'est le constat des disciples d'Emmaüs qu'on a en Luc chapitre 24. Mais au troisième jour. Oh, quel jour! La pierre a été roulée. Jésus est sorti vivant du tombeau. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Par sa résurrection, il a brisé les portes de l'intérieur. Et ça, c'est le point central. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile. Jésus a traversé la mort pour nous. Il a brisé les portes de la mort de sorte que celui qui croit en Jésus le Messie, qui a donné sa vie en rançon pour nos fautes, il est passé de la mort à la vie. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle ne peut plus nous retenir. Et Pâques, c'est la preuve. La pierre roulée n'est pas juste un miracle, c'est une déclaration. Les portes ont cédé. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Parce que Jésus-Christ est la tête et que la tête est dans la gloire éternelle, alors le corps que nous sommes finira dans la gloire éternelle. Les portes du séjour des morts ne pourront pas nous résister. On va tous passer par là, normalement. Mais les portes sont vaincues. Elles ont cédé. La mort ne vous retiendra pas si vous êtes en Jésus-Christ. Vous allez vivre éternellement avec lui. Quelle précieuse vérité! Et si Jésus a vaincu la mort, alors tout ce qui est dans nos vies et qui ressemble à la mort pourrait reprendre vie. Qu'est-ce qui, dans ta vie, ressemble à ces portes? Est-ce que c'est une culpabilité qui te tient enfermé? Une peur qui te paralyse? Peut-être la peur des hommes, la peur de la mort? Est-ce une addiction qui te contrôle? Est-ce une blessure ancienne qui t'emmure, qui t'isole? tu as l'impression que c'est fermé. C'est fermé de l'intérieur. C'est irréversible. Ça ne changera pas. Mais Jésus, le prince de la vie, a vaincu pour nous donner une espérance solide. Et ça, c'est encore le sens de la prière de l'apôtre Paul pour notre illumination. Il prie toujours, juste après, en Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20, « afin que nous comprenions, écoutez cela, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la puissance déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts est celle que Dieu veut déployer pour transformer nos vies. Il ne va peut-être pas changer vos circonstances, mais il va changer vos cœurs. La vérité de la résurrection va transformer vos cœurs et vous faire porter beaucoup de fruits au sein même de ces souffrances. Comme après un hiver où tout a gelé et puis on voit apparaître la vie qui apporte la joie. Voyez-vous, et porte ont cédé, définitivement. Et puis enfin, regardons les clés. Au verset 19, Pierre reçoit les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est une autorité, en fait. Pierre reçoit le pouvoir d'offrir l'accès au royaume. Comment ? Eh bien, par la prédication de l'évangile. Cela contraste avec les religieux de son époque. En Matthieu 23, verset 13, il est écrit que, c'est Jésus qui parle, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, parce que vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Ils étaient, eux, censés, en tant que chefs religieux, guider les gens vers Dieu. Mais en réalité, ils empêchent l'accès au royaume. Et comment ils le font ? Mais en imposant des règles humaines lourdes, en rejetant la justice de Dieu simplement par la foi et en mettant l'accent sur l'extérieur plutôt que le cœur. Mais dans les Actes des apôtres, on voit l'apôtre Pierre qui est le premier à prêcher le message de l'évangile aux Juifs en Actes chapitre 2 lors de la Pentecôte, aux Samaritains, hein, des demi-Juifs, si je peux dire, en Actes chapitre 8, et puis aux non-juifs, au chapitre 10 des Actes des Apôtres, avec Corneille, ce centenier romain. Dieu utilise l'apôtre Pierre pour ouvrir les portes du royaume en prêchant le même évangile à tout type d'hommes pour établir une seule église, un nouveau peuple de rachetés. Cette autorité, elle s'est étendue à tous ceux qui sont appelés à proclamer l'évangile. On pense bien entendu à l'apôtre Paul. Mais au fond, à nous tous qui avons reçu ce commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est notre privilège. C'est notre privilège de faire connaître le roi ressuscité, sa victoire sur la mort, le pardon des péchés, la vie éternelle à tout homme pécheur qui croit. Que notre Église soit véritablement un phare pour attirer une multitude à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'on souhaite. C'est pour cela qu'on envoie une équipe au Sénégal, pour qu'elle brille, qu'elle annonce le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes dispersés tout le reste de la semaine, la plupart du temps seuls à notre travail ou dans notre lycée, à la fac ou dans notre quartier, pour être des témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous devons confesser, c'est Jésus-Christ comme Messie, comme Seigneur, qui s'est offert à la croix pour nous et qui est ressuscité d'entre les morts. Mais Pierre a également le pouvoir de reconnaître une confession de foi crédible, comme la sienne, pour accueillir des nouveaux croyants dans l'Église, par sa grâce. il a aussi cette capacité à dire « Non, ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Ça, ce n'est c'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus des Évangiles. » Vous comprenez ? Cette clé, elle fonctionne aussi comme ça. Il y a des clés pour ouvrir ou pour fermer l'accès au royaume de Dieu. Au fond, ce n'est pas lui qui décide, mais il est en mesure de reconnaître si l'Évangile est là ou pas. Au fond, la clé, c'est l'Évangile. Dans ce verset 19, dans la Bible du Semeur, est traduit ainsi, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Ce qui est décidé sur la terre reflète ce qui est déjà décidé dans le ciel. Autrement dit, ce n'est pas Pierre ou l'Église qui décide en premier lieu, mais Dieu qui a déjà tranché. Et l'action sur la terre est rendue simplement visible, la réalité. Accueillir, c'est reconnaître qu'une personne appartient à Dieu, qu'elle confesse véritablement Jésus-Christ. Elle est reçue comme disciple. Et ça, c'est le rôle de l'Église, d'identifier les véritables chrétiens et de les incorporer dans son Église. Exclure, c'est reconnaître qu'une personne ne fait pas partie du royaume. Elle rejette encore l'Évangile en refusant de reconnaître son péché et en mettant sa confiance en autre chose qu'en Jésus-Christ. On retrouve cette même expression, tu liras, tu déliras, en Matthieu chapitre 18, dans les chapitres qui suivent, versets 17 et 18. Et ici, c'est l'Église, l'assemblée locale, qui a autorité d'accueillir ou d'exclure un de ses membres vivant dans une désobéissance flagrante, en fonction de sa manière à répondre à l'Évangile par la repentance ou la foi. Vous voyez, l'Église a ce pouvoir d'examiner une vie, de dire, mon frère, ma sœur, tu ne vis pas comme un chrétien. Et c'est quelque chose de difficile pour l'Église, mais elle a besoin de confronter cela. Et on sait bien qu'on est tous des pécheurs et qu'un jour ou l'autre, on sera confronté à notre propre péché, à nos propres fautes. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est exclu ou inclus dans l'Église. C'est l'absence de repentance qui nous exclut. C'est l'absence de reconnaissance que Jésus-Christ est mort pour ce péché et qu'il m'invite à une transformation, à un changement de vie, qu'on ne peut plus vivre comme avant. Pour beaucoup, les portes sont encore fermées. Ils sont prisonniers de leurs faux raisonnements, de leur propre justice. Ils sont captifs de leurs péchés. Ils sont liés par toutes sortes de peurs, crainte des hommes, ne voit pas la puissance de Christ ressuscité. Prions que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qu'ils comprennent l'espérance qui est offerte aux croyants et la gloire que Dieu réserve à ses rachetés et la puissance de sa résurrection capable de transformer nos cœurs en profondeur. Le message, Jésus-Christ est le Messie. Et parce qu'il est le Messie, il est qualifié parfaitement pour offrir sa vie en rançon pour nous, ce dont il donne une preuve certaine en ressuscitant d'entre les morts. Et parce que Christ est ressuscité, il nous envoie chacun être ses témoins pour ouvrir, apporter le message et ouvrir le royaume au monde. Et puis, il nous invite à former l'Église et à garder l'Église attaché à son Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que cette journée où on célèbre la résurrection de notre Sauveur, eh bien, soit pour chacun d'entre nous une grande joie. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, tel qu'il est, savoir comme votre sauveur, comme le Messie. Je vous invite à prier dans cette journée et de demander au Seigneur, révèle-toi à mon cœur, ouvre mes yeux. Tu n'es pas simplement un prophète, tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu peux payer pour mes fautes, une dette éternelle. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu nous as aimés à un point incroyable, Seigneur, de sorte que tu as quitté ta gloire, tu es venu sur la terre, tu t'es fait homme, parfaitement Dieu. Tu as pu t'offrir en sacrifice, toi le seul juste, le parfait, pour que nos péchés soient effacés. Pour que notre dette incommensurable soit payée, il fallait que tu nous réconcilies. Et Seigneur, je prie pour que personne ici ne se prive d'un si grand salut, mais qu'au contraire, nous puissions chacun saisir cette vérité et nous réjouir, Seigneur, de ce que tu es vivant, de ce que l'on peut te parler, de ce que l'on peut vivre avec toi, de ce que l'on peut marcher à tes côtés. Merci pour ce culte que nous pouvons t'offrir, Seigneur, qu'il te soit agréable, que nos vies te soient agréables tout entières. Seigneur, je prie pour ce matin pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore saisi ces choses. Je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur, pour saisir les choses qui sont déjà là, sous leurs yeux. Je le demande par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.